French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Et ça y est, c'est l'été, vous l'attendez depuis des semaines, voire des mois, pour vous reposer ou bien au contraire pour partir à la découverte du monde, de votre région ou même de votre jardin. Cet été, French Expat vous invite à ouvrir votre courrier et à découvrir des cartes postales de différentes personnes de l'équipe. Cette année, j'ai demandé à Manon, Charlotte, Fanny et Caroline de nous envoyer du courrier. Je sais pas vous, mais moi j'adore recevoir des cartes postales. Les questions auxquelles je leur ai demandé de nous répondre, il y en a deux. La première concerne leur expatriation. Quels sont les conseils qu'elles ont reçus ou qu'elles auraient aimé recevoir avant de partir en expatriation et donc qu'elles pourraient prodiguer à des personnes qui se lanceraient dans l'aventure tout juste maintenant? Et la deuxième, quels sont selon elles les 3, 4, voire même 5 endroits, trucs à goûter, trucs à ramener, trucs à sentir pour découvrir leur ville d'expatriation avec des bonnes adresses et des conseils qu'on ne retrouverait pas dans le guide du routard. De l'authentique. Alors installez-vous confortablement pour clôturer cette série de cartes postales. Je vous propose une carte postale qui vous vient tout droit de Boston et qui est faite par moi, Anne Fleur.
Welcome to Boston Logan International Airport.
Alors, je suis pas très très habituée à répondre aux questions, mais je vais faire de mon mieux. Pour situer, je suis venue aux États-Unis ne parlant pas vraiment un mot d'anglais pour un stage qui était obligatoire dans mon école il y a presque 15 ans déjà. Et en disant ça, je me rends compte que je suis un peu vieille. Ce stage, c'était à Buffalo, dans l'état de New York, c'est dans le nord-est des États-Unis. Au niveau des chutes du Niagara, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'y ai rencontré mon mari, un local de l'étape, Mike. Je suis rentrée en France, il m'a rejointe quelques mois plus tard, et 3 ans après, on a décidé de revenir aux États-Unis. Buffalo d'abord, puis Boston, où on est basé depuis 9 ans. Des conseils qu'on m'a donnés que j'aurais voulu qu'on me donne. Je me souviens que quand je suis arrivée en 2007 pour un stage de 8 mois à l'époque, tous les étudiants étrangers que je rencontrais me demandaient pour combien de temps j'étais là. Et quand je leur disais, ils me répondaient que j'étais en fait que de passage. Je crois que beaucoup d'entre eux venaient pour des diplômes entiers, en fait, genre 3-4 ans, et ils se protégeaient un peu. Je l'ai compris pas mal d'années plus tard. Je crois qu'on se protège un petit peu quand on est là depuis longtemps. Personnellement, je m'investis beaucoup dans les amitiés que j'ai, qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs, et après quelques déconvenues ou... beaucoup d'au revoir, en fait, je dois avouer que je trouve ça hyper éprouvant de s'investir émotionnellement dans des amitiés pourtant vraiment géniales avec des gens qui seront là juste pour un an. Au final, je suis souvent celle qui reste, celle qui dit au revoir, et il n'y a personne pour me consoler, à part mon mari. Alors, je me conseillerais de ne pas juger les étudiants que je trouvais un peu snob il y a 15 ans. Un autre conseil. Accepte cette soirée, Anne-Fleur. Accepte les propositions de tes amis de te faire découvrir la culture. La culture, c'est pas que les voyages. La culture, c'est les gens. Quand on est étudiant, en plus, c'est vraiment une grande, grande chance qu'on a. On peut rencontrer des gens hyper facilement sans que ce soit super bizarre. Un travers que je note parfois, au début des expatriations, on compare beaucoup avec ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait déjà. Alors moi, j'ai adoré tout lâcher, sans oublier qui j'étais, hein, mais en oubliant certains codes. Et ça m'a offert une grande liberté. Ça m'a vraiment libérée en fait, d'un poids et ça m'a offert surtout, je crois, une grande, grande empathie. Et c'est grâce à ça, je pense, que je peux dire que je comprends la culture dans laquelle je vis. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait tomber amoureuse vraiment du pays, en fait. Parce que je me suis un peu remise à ma place et j'ai accepté de pas savoir, j'ai accepté de pas comprendre. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui avaient envie de m'aider à comprendre et à comprendre la culture et le pays et les gens. Les États-Unis, c'est un pays de contraste. C'est bien sûr pas le seul pays de contraste dans le monde, mais c'est celui que je connais le mieux. Et voilà, je pense qu'un conseil qu'on m'avait donné et que je trouve toujours très très d'actualité, c'est ne pas faire de généralité. Dire les Américains sont comme ça ou l'Amérique c'est comme ça, c'est généralement le meilleur moyen de dire des bêtises. Enfin, t'es sur une note un peu différente, un conseil à mon moi d'il y a 2 ans, quand j'ai créé French Expat. French Expat, pour moi, ça voulait dire les gens qui sont partis de chez eux, point barre. Et encore très souvent, quand j'invite quelqu'un à me raconter son expérience à l'étranger, il ou elle me dit « Ah non, désolé, je suis pas expat ». Alors moi, au début, je comprenais pas, j'étais « Bah si, t'habites à Dubaï, à New York ». Et en fait, maintenant, je réalise que j'aurais peut-être pu me renseigner. Moi, quand je suis venue, j'étais étudiante, je vous le disais, j'ai payé mes visas, ma carte verte et mon passeport avec mon argent, ou l'argent que j'avais pas. J'ai payé la crèche de mon fils, de ma poche, je suis parfois à découvert, j'ai des dettes, je ne suis pas le cliché de l'expatrié. Le cliché de l'expatrié, il est fondé sur une réalité un peu ancienne, en fait, et c'est dérangeant, parce que ça correspond, bah, du coup, pas à la réalité actuelle. Les gens qui décident de vivre à l'étranger ne sont pas tous blindés de thunes, sont pas tous directeurs ou directrices de quelque chose avec un ou une conjoint qui est resté à la maison, avec les enfants à l'école française, les domestiques, ni des gens qui sont pas intégrés. Alors mon conseil serait de réfléchir au nom, que j'ai choisi vraiment en 2-3 secondes, pour éviter cette connotation négative. D'ailleurs, si vous avez des idées, eh ben dites-le moi. La deuxième question. Des trucs à voir, à goûter, à sentir et à ramener de Nouvelle-Angleterre, de Boston, là où je suis, donc dans le nord-est des États-Unis. Pour situer, Boston, c'est un des premiers aéroports quand on arrive d'Europe. On arrive en fait du nord-est des États-Unis, hop, et on redescend. Donc ça doit être une des premières grandes villes, c'est pas le premier aéroport bien sûr. On est à 5 heures, je crois, de route de Montréal à peu près, et peut-être 3 heures de New York pour vous situer. Ce qui est chouette à Boston, c'est qu'on a 4 vraies saisons. En été, il fait très très chaud et très humide. C'est très typique du nord-est américain. L'humidité, c'est pas facile parce qu'on est toujours un peu moite. Moi, je me sens toujours un peu cracra. Et l'hiver, par contre, on a de vrais très beaux hivers. Donc du coup, mes recommandations, en fait, elles vont dépendre un peu de la saison dans laquelle vous venez. En fait, je pense que dans toutes les saisons, la région de Boston est absolument fantastique si vous aimez les outdoors, si vous aimez être dehors, si vous aimez la nature. En hiver, je vous conseille, je sais pas, si vous aimez faire du patin à glace, en fait, d'aller faire un tour, par exemple, du côté de Walden Pond, qui est à, allez, grosso modo, 20 minutes de Boston, en voiture. C'est un grand lac avec une grande balade à faire autour, et en fait le lac il va être gelé, et vous allez pouvoir aller vous balader soit en raquette sur le lac ou avec des patins à glace par exemple, et c'est vraiment génial. Et ben en été vous pouvez aussi aller dans ce lac là et vous baigner. Il y a une quantité de lacs autour de Boston et en Nouvelle-Angleterre en général qui est absolument fantastique. Si vous aimez les outdoors, il y a aussi les White Mountains dans le New Hampshire. Et même sans aller si loin, il y a un truc qui s'appelle la réserve des Trustees, et en fait c'est une collection, je ne sais pas si c'est trop le mot, d'endroits, d'espaces naturels autour de Boston et en Nouvelle-Angleterre. Et il y a des endroits du coup qui sont vraiment très préservés, qui sont absolument fantastiques. En été, je vous conseillerais aussi d'aller faire peut-être un tour du côté de Plum Island, qui est au nord de Boston, qui est une presqu'île, c'est beaucoup de sable, un petit peu de végétation. Si vous aimez voilà, prendre le soleil, vous allez trouver des espaces immenses à l'américaine. Vous allez trouver des grandes dunes. Alors l'eau est assez froide hein, quand même, on est dans le nord des États-Unis. Mais c'est vraiment magnifique. Et puis si vous avez envie de faire un petit peu plus de route, et bien allez faire un tour du côté de Cape Cod. C'est sublime. Un truc à goûter, et bah forcément, j'ai envie de vous dire, le lobster roll. Alors, le lobster roll, je suis bretonne, précisons-le. Pour moi, c'était un scandale, une hérésie totale, en fait, de se dire que vous allez foutre du homard dans un sandwich. Et j'ai mis des années à le goûter. Hein. J'étais en déni total. Et au final, en fait, donc, c'est un homard. C'est très, très généreux en portions de homard. Dans un pain brioché, légèrement grillé, que vous allez retrouver donc, avec une petite sauce type mayo, mais assez léger. Plus il y a de mayo, généralement, moins c'est bon. Hein. Vous allez trouver une petite salade avec. Et puis, c'est servi avec un coleslaw et souvent des frites. Ça paraît peut-être tout bête comme ça, mais c'est un délice. C'est hyper frais. C'est la saison des homards en Nouvelle-Angleterre, à peu près de juin à septembre, avec le gros pic qui doit être au mois d'août. Donc vous trouvez du homard pour vraiment pas cher et c'est délicieux. Un truc à ramener d'ici, eh ben, on est aussi dans le coin des belles universités, des grandes universités. Je pense à Harvard et au MIT. Alors c'est un peu touristique, mais c'est toujours super sympa. Oui, vous pouvez visiter les campus et direction la COOP, qui est la coopérative de Harvard et du MIT, qui est d'ailleurs le même magasin pour les deux. Et vous allez choisir votre sweat à capuche à l'emblème, à l'effigie de votre université à ramener en France ou peu importe où est-ce que vous rentrez. Voilà, et puis bah, si vous venez faire un tour à Boston, faites-moi signe. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'une petite virée du côté de la Nouvelle-Angleterre, ça vous donne envie. N'oubliez pas qu'on est en train de construire la saison 3 du podcast. Si vous avez des envies particulières de sujets, d'invités, de destinations, c'est le moment de le faire savoir. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet du podcast. C'est le meilleur moyen de vous assurer que votre message ne passe pas à la trappe. En tout cas, merci à vous d'être là chaque semaine plus nombreux. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!